Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Denis Lachoux qui a donné une conférence vendredi 11 novembre sur le thème de l'écriture, la parole, le silence.
Octobre.
Octobre, j'ai dit novembre, excusez-moi, vous voyez, le temps passe tellement vite qu'on est... Et hier, nous sommes aujourd'hui le 13, hier nous étions donc le 12 octobre. Il nous a offert une lecture de sa pièce La magie lente. Alors, quand j'ai réfléchi à comment aborder cet entretien avec Denis, je me suis dit que revenir sur les thèmes de la conférence dévoilerait trop son propos, et je trouve qu'il faut l'entretenir et le garder le plus secret possible avant que vous ne le découvriez. Par contre, je vais lui proposer quelque chose que j'ai imaginé. Alors, je ne sais strictement pas si la chose va fonctionner comme je l'espère. Donc, nous allons faire le test. C'est quand même de partir de ces trois mots qui sont l'écriture, qui sont la parole et qui sont le silence. Trois termes qui m'apparaissent abyssaux, parce que si on les prend séparément... Il nous raconte une grande partie de l'histoire de notre humanité. Nous allons être plus simples. Dans un premier temps, je vais te demander, Denis, de réagir, si tu le désires bien entendu, si cela te parle, à quelques synonymes autour de l'écriture, autour de la parole et autour du silence, et ainsi que sur quelques phrases qui ont pu être prononcées qui évoquent ces trois sujets.
Bien sûr.
Alors, un synonyme d'écriture que je prends au hasard. Gribouillage.
Alors moi, le gribouillage, ça m'évoque plus le dessin que l'écriture. Ça me fait penser à l'enfance, quand on gribouille, c'est-à-dire quand on essaye de représenter des choses et que on n'a pas encore suffisamment de connexion neuronale pour arriver à transformer l'image qu'on a dans la tête en dessin fidèle, représentatif. Et donc ça, c'est quelque chose où l'image se transforme en gribouillage, du coup. C'est ça que ça m'évoque, moi, en tout cas, gribouillage.
Idéogramme.
Ça m'est parfaitement étranger. Oui, c'est l'idéogramme. L'idée que la culture est une fiction, c'est-à-dire on construit chacun des façons de... Enfin, dans chaque culture, on construit des façons de communiquer qui sont propres à la culture. Et quelque chose qui prend sens et qui donne du sens dans une culture est un gribouillage dans une autre.
Main.
La main ? La main. La main pour écrire, il faut des mains. En tout cas, moi, je me sers de mes mains. J'écrivais à la main, d'ailleurs, au début. J'écrivais vraiment à la main, c'est-à-dire j'écrivais sur du papier. C'était dans les années 90. Et donc, j'ai découvert l'ordinateur. Et ça m'a un peu sauvé parce que mon processus d'écriture suppose que je jette une sorte de premier jet et qu'ensuite, je corrige beaucoup. Que je retravaille les phrases, chaque phrase, jusqu'à ce qu'elle sonne dans mon oreille. Et donc, à l'époque où j'écrivais sur du papier, très rapidement, le papier se surchargeait de flèches, de renvois, de petites étoiles, de ronds entourant les étoiles pour différencier des étoiles, etc. Et au bout d'un moment, j'y comprenais plus rien. Ça ne ressemblait plus à rien. Et donc, quand je suis passé à l'ordinateur, ça m'a sauvé, parce que j'ai découvert que la page d'ordinateur était toujours propre. Et c'est exactement ce qu'il me faut pour écrire. Alors, ça passe toujours par les mains, bien sûr, puisque ce sont les doigts qui tapent sur les touches. Mais on peut plus vraiment parler réellement d'écriture à la main.
Dans le titre que tu as fait apparaître sur le flyer que j'ai envoyé, écriture, le E de écriture est majuscule. Et en y réfléchissant à comment aborder cet entretien, je me suis dit que quand on parle de Dieu, Dieu est en majuscule. Le D de Dieu est en majuscule. Qu'est-ce que ça sous-entend pour toi de mettre le E d'écriture en majuscule ?
Ça sous-entend tout simplement que c'est un titre. Dans un titre, il y a des règles, hein, je ne les connais pas précisément, mais je sais que pour les titres de romans, par exemple, la première lettre du premier mot est en majuscule, et si ce mot est un article, la première lettre du premier nom commun est en majuscule aussi. Donc l'écriture, la parole et le silence en tant que titre supposent que L majuscule apostrophe et majuscule. Voilà, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Hein. Puisque tu me demandais de donner un titre à ma conférence, et puisque je n'avais jamais jusque-là fait de conférence, et donc donner de titre à des conférences, j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait comme quand je donne un titre à un texte que j'écris, que ce soit une pièce de théâtre ou un roman. Ça n'a rien à voir avec Dieu. En ce qui me concerne, rien n'a rien à voir avec Dieu.
Il n'y a pas de rapprochement à faire.
Non, pas tellement.
D'accord. Je vais finir par un dernier, peut-être. Rédaction.
Rédaction. La rédaction, bon, la rédaction, le fait d'écrire, et puis la rédaction à l'école, qui était pour moi une sorte de pensum à l'époque. Je n'étais pas du tout considéré comme un littéraire. En dehors du fait que j'étais passionné par les langues étrangères et que j'étais bon en grammaire ou en orthographe, je n'étais pas considéré comme un littéraire. J'étais plutôt considéré par mes professeurs comme un scientifique. Ce qui n'a pas donc attiré mon attention par rapport à la rédaction elle-même. D'autant que écrire des rédactions ou même après des dissertations, c'est quelque chose qui me faisait plutôt souffrir parce qu'il fallait absolument... Il fallait pas se laisser aller, il fallait construire, il fallait faire un plan, il fallait ordonner sa pensée. Toutes choses qui m'étaient parfaitement antinaturelles et qui n'ont pas attiré mon attention. Alors, il y a eu une rédaction, je me souviens, en troisième. Un jour, le professeur nous a demandé de transposer à une autre époque les enjeux de la pièce Horace de Corneille. Et donc, sans que l'énoncé de la rédaction ne le suppose, ce qu'il nous a demandé, c'est d'écrire de la fiction. Et j'ai donc écrit une nouvelle, ma première nouvelle, sans m'en rendre compte. Et en même temps, en me rendant bien compte que, pour une fois, j'étais complètement enthousiasmé par ce travail. À tel point que cette rédaction-là a été trois fois plus longue que d'habitude. J'ai produit trois copies doubles, je crois. Et aussi, a généré une note largement supérieure aux médiocres notes habituelles de rédaction. Mais pour autant, ça n'a pas attiré mon attention. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, tiens, voilà quelque chose qui m'intéresse. Je vais me mettre à écrire des histoires comme ça. Non, ça a encore attendu quelques années avant que le hasard place l'écriture sur ma route à nouveau. Et que cette fois-ci, je m'en empare.
Maintenant, je vais te soumettre deux phrases. La première, l'écriture, c'est le cœur qui éclate en silence.
Oui, bah, je vois bien ce que ça peut vouloir dire. Moi, le cœur, ça ne me parle pas trop. Parce que... j'ai l'impression qu'en art, il s'agit plus des tripes et de la cervelle, hein, que du cœur. Le cœur, il bat, il nous garde en vie. Bon, après, évidemment, il y a toute une histoire de l'imagerie du cœur qui fait qu'on peut parler du cœur qui éclate en silence. Mais ce que je retiens de cette phrase, moi, c'est plus le silence. C'est-à-dire que l'écriture, c'est un phénomène silencieux. mais qui fait grouiller le silence, qui fait éclater en effet quelque chose, qui fait aussi que quand cette écriture sera partagée, puisque le but de l'écriture c'est d'être partagée, quelque chose va éclater. Ou chez le lecteur s'il s'agit d'un texte à lire, ou chez le spectateur s'il s'agit de théâtre. Quelque chose peut éclater, dans le meilleur des cas. Quelque chose peut se répandre. Éclater dans le sens où quelque chose qui est concentré quelque part se répand par une sorte d'explosion.
Deuxième phrase. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture.
Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense qu'on peut écrire sans avoir aucune force dans le corps. J'ai l'image de quelqu'un qui serait tétraplégique, qui n'a donc plus aucune force dans le corps, et ça ne l'empêchera pas d'écrire, s'il le souhaite. Bon, en même temps, il y a quelque chose, évidemment, d'un investissement qu'on pourrait imaginer comme corporel, qui fait que quand on écrit, on est tout entier dans l'écriture, le temps de l'écriture. Après, la deuxième partie de cette phrase...
Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture.
C'est intéressant parce que ça laisse la place à quelque chose qui est de l'ordre du dépassement. À la fois le dépassement des limites de son propre corps, justement, et le dépassement de sa propre force, de sa propre volonté. Le sentiment que j'ai pu avoir par moment dans l'écriture que non pas c'était plus fort que moi, mais que c'était plus vaste que moi. Je me souviens particulièrement quand j'ai écrit mon deuxième roman qui s'appelle La forme profonde, et que j'avais produit déjà pas mal de matière, je me souviens qu'il était tellement vaste à l'intérieur que je ne le contenais pas. C'est la seule fois où j'ai eu ce sentiment. J'ai eu le sentiment que je ne pouvais que me faire confiance et me déplacer à l'intérieur. Et voir que, indépendamment les uns des autres, chaque morceau du texte était cohérent. Mais je ne le contenais pas. J'étais incapable d'en avoir la mesure à l'intérieur de moi, en entier, en une seule fois. Donc d'une certaine manière, il y avait vraiment un dépassement là. Mais c'est vrai que sinon, pour chaque texte, où il y a quelque chose où... j'ai tout à fait confiance d'une ouverture sur quelque chose qui me dépasse. J'aurais pas mis le mot force, moi, j'aurais mis autre chose, mais oui, il y a on est à la fois traversé, envahi et habitué par expérience à redonner quelque chose qui s'est concentré en nous et qui va repartir vers l'extérieur, transformé, construit, poétisé, et qui est bien plus vaste que nous, en effet.
La première phase est de Christian Bobin, la deuxième est de Marguerite Duras. Quels sont, je dirais, tes auteurs de prédilection, et qu'est-ce que tu cherches dans l'écriture romanesque chez les autres? Est-ce que tu as des styles de prédilection ou tu es ouvert à tous les styles ou...
Je suis ouvert à toutes les musiques, mais si tant est qu'il y a une musique. C'est vraiment rare que je lise un roman, en tout cas pour la thématique qu'il explore. C'est toujours la musique du texte qui va me prendre. Par exemple, quand je vais dans une librairie pour acheter un roman sans savoir en entrant ce que je vais acheter... J'ouvre les livres à une page au hasard, et c'est comme ça que je choisis. C'est pas en lisant la quatrième, en voyant de quoi ça parle. Et donc, ça donne que mes auteurs de prédilection, le premier exemple qui me vient, c'est Cormac McCarthy, qui est un auteur américain. Et alors vraiment, si on devait parler des thématiques, ce ne sont pas des choses qui, sur le papier, m'intéresseraient. Mais sa langue est tellement extraordinaire que je suis complètement tenu quand je lis une de ses œuvres. Et le deuxième exemple qui me vient, c'est en littérature française, c'est Marine Diaye. Marine Diaye qui, avec le temps, a réussi à mettre en place une musique unique, alors qui s'appuie sur un univers qui est unique lui-même, je trouve. Et il y a une résonance incroyable entre cet univers unique et cette musique unique. Et ça donne une dimension incroyable à cette écriture. Et j'y suis vraiment très très sensible.
Là, nous sommes sous l'aspect romanesque, sous l'aspect théâtral. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont particulièrement frappé, qui, dans la construction ou dans la musicalité, puisque tu l'évoques, te parlent également ?
Oui, oui, oui. Là, c'est plus ce qui me vient, c'est plus des histoires de chronologie, de progression, je dirais, dans l'écriture théâtrale ou dans la découverte des possibilités du théâtre. Le premier, comme ça, qui m'a vraiment impressionné, c'est Shakespeare, parce que c'est très très vaste aussi, c'est très ouvert, et c'est le premier qui m'a donné vraiment le sentiment de ce que ça pouvait être que d'écrire du théâtre, c'est-à-dire d'écrire un texte éminemment poétique, puisqu'écrit dans destiné à la parole, destiné à la temporalité de la parole, et ouvert sur le jeu, c'est-à-dire qu'il laisse vraiment de la place à l'interprétation, qui n'enferme pas le comédien, qui au contraire lui permet de se déployer. Et ensuite, je pourrais citer Coltès, par exemple, Bernard-Marie Coltès, pour la singularité aussi de son univers et de la musique qu'il propose aux comédiens dans un premier temps et aux spectateurs ensuite, qui est comme un vecteur au théâtre pour moi, c'est-à-dire que une musique particulière et juste, c'est quelque chose qui va transpercer le spectateur. Et peut-être le dernier exemple qui me vient, c'est Yon Foss, alors que je lis en français, parce que je ne parle pas norvégien, qui lui aussi, peut-être comme Marine Diaye dans les romans, nous offre comme ça une espèce de résonance incroyable entre un univers très singulier et une langue aussi qui n'appartient qu'à lui, très épurée et en même temps grandiose.
Je vais citer un nom qui te parlera ou pas, qui te donnera quelque chose à dire ou pas, si on parle de Beckett.
Ça m'a beaucoup appris de lire Beckett aussi, parce qu'il a, dans mon parcours à moi, il a comme révolutionné quelque chose, c'est-à-dire que il y a eu quelque chose pour moi dans la découverte de Beckett d'un renouvellement total des possibilités du rapport au réel, en fait. Le texte de Beckett m'a semblé me parler de l'humanité tout autant que tous les auteurs que j'avais pu admirer jusque-là, mais d'une façon qui était totalement nouvelle. Et ça a élargi toutes les possibilités que j'ai pu envisager dans l'écriture théâtrale. Ça m'a donné des outils. Beckett m'a donné des outils. Mais alors lui, c'est plus justement par rapport à son point de vue. Le point de vue qu'il donne à son texte sur le réel, beaucoup plus que sa langue, par exemple. Je ne sais pas si je saurais parler de la langue de Beckett. Elle ne me semble pas avoir de particularité marquante. Mais son point de vue sur le monde et l'endroit d'où ces personnages nous parlent du monde est assez unique, ouais.
Bien, nous venons de clore le premier chapitre. Deuxième chapitre, parole. Observation.
Bah, l'observation, c'est le quotidien de l'écrivain, je pense. L'écrivain ne se met pas à observer parce qu'il est écrivain. Peut-être l'écrivain devient écrivain notamment parce que c'est qu'il est constamment en train d'observer. Et que cette position dans laquelle il s'est placé, enfin je parle pour moi, hein, cette position dans laquelle je me suis placé, probablement assez jeune, a eu des vertus salvatrices. Et en même temps, ben, m'a permis d'engranger toutes sortes de connaissances sur mes congénères, la façon dont les relations entre eux ou entre eux et moi s'organisent. Et le jour où je me suis mis à écrire, j'ai pu bénéficier de tout ce que cette position d'observateur avait pu me permettre d'accumuler comme savoir et comme connaissance à la fois intellectuelle et sensible sur le monde. Et en même temps, l'écriture est une position d'observation elle-même, c'est-à-dire que il me semble que l'écriture me sert à observer aussi, à creuser ce que l'observation au quotidien a pu me permettre de découvrir. L'écriture me permet de le creuser, de le réfléchir, de le préciser.
Il est d'ailleurs curieux qu'observation se soit synonyme de parole. Parce que l'observateur, en principe, est quelqu'un qui est plutôt en retrait, qui peut regarder le mouvement des êtres humains en face de lui, le mouvement de la nature, mais en être simplement, en tant qu'observateur, quelqu'un qui n'a pas la nécessité d'exprimer par la parole.
Peut-être c'est par le fait qu'on dit je viens de faire une observation, et en fait ça signifie je viens de dire quelque chose.
Voilà.
Mais sinon peut-être. Je ne vois pas de rapport entre le fait d'observer et la parole.
Outrage.
Outrage, ça me fait penser à Outrage au public, qui est une pièce de théâtre de Peter Handke, je crois. Je me souviens assez peu du texte, mais je me souviens de la singularité aussi de ce point de vue, c'est-à-dire de j'étais à l'école de théâtre quand je l'avais lu. J'avais dû en travailler un passage, d'ailleurs. Et cette espèce de frontalité que le texte suppose... c'était aussi quelque chose d'assez nouveau pour moi qui découvrait la profération d'un texte par rapport au public et tout ce que ça peut impliquer de conscience de la présence du public nécessaire pour le comédien et en même temps d'oubli du public parce qu'il s'agit d'être dans la pensée de l'auteur quand il y a un auteur. Et là, l'outrage au public supposait une frontalité totale, en fait. Le fait de lancer le texte au public et de l'outrager, puisque c'est le titre. Je me souviens pas assez du texte pour en parler, mais je me souviens de ce phénomène-là, de la découverte de cette frontalité-là.
En tant qu'écrivain, en tant que dramaturge, en tant que citoyen, où en est l'état de la parole aujourd'hui, de ton point de vue ?
En tant que citoyen, je dirais que l'état de la parole me semble inquiétant. C'est-à-dire, l'état de la parole en tant que la parole est utilisée d'une façon qui la détruit. On voit constamment en ce moment des dirigeants politiques dire quelque chose et faire le contraire. Et par ce fait, détruire la parole. C'est-à-dire que la parole n'est plus reliée... la réalité de ce qu'elle implique et elle perd son sens et c'est assez inquiétant, c'est-à-dire que si la parole qui est quand même je dirais historiquement la chose qui nous a permis de faire société est détruite, c'est notre capacité à faire société qui est en danger.
Une phrase. Les paroles ne devraient jamais prévaloir sur les faits. Celui qui agit bien devrait savoir parler. Celui qui agit mal, ses mots devraient avoir un son fêlé. Il ne pourrait rendre éloquente son injustice.
Plusieurs phrases.
Plusieurs phrases, effectivement.
Moi, je pense que la parole... Je sens dans ce texte une dimension très morale, en fait, et très moralisatrice, comme si le bien était relié à la parole juste et le mal à la parole fausse. Et je ne crois pas du tout à ça. C'est-à-dire que, pour moi, la parole, c'est quelque chose qui est indépendant de la morale. La morale, c'est complètement une fiction, c'est-à-dire quelque chose qui est moral ici ne va pas être là-bas. Et donc... La parole, c'est juste une capacité d'échanger entre deux personnes, et c'est indépendamment d'une universalité morale qui n'existe pas. Et je pense que le mal peut être exprimé de façon juste aussi bien que le bien. Puisque le mal et le bien sont définis dans chaque culture d'une certaine manière, ils peuvent dans chaque culture être exprimés aussi justement l'un que l'autre.
Cette phrase remonte à un certain temps, puisque c'est Euripide. Il a écrit dans un de ses textes. Ça veut dire que déjà à l'époque, on avait une perception de la parole vraie et d'une parole fausse, même si effectivement, suivant ton interprétation, cela est à reconsidérer.
Oh bah, dès qu'il y a parole, bien entendu, la justesse de cette parole ou la fausseté de cette parole est offerte à l'interprétation, sont offertes à l'interprétation. Je lisais, même avant la parole, parce qu'on ne peut pas parler de parole, mais je lisais quelque chose récemment sur les singes qui ont certains messages, par exemple, qu'ils peuvent s'envoyer pour dire attention à un loup, attention à un vautour, attention à un aigle, qui sont des dangers objectifs pour eux. Et donc, si on peut reproduire ce son, par exemple le son attention à un aigle... Et le diffuser, tous les singes vont se mettre à lever la tête. Et si on diffuse attention à un lion, ils vont tous monter dans les arbres. Bon. Et on a pu observer que un singe peut tout à fait lancer le message qui correspond à attention à un lion, parce qu'il voit un de ses congénères qui a une banane qui l'intéresse dans la main, et que donc s'il dit attention à un lion, à sa façon, je ne sais pas comment ça s'exprime, le congénère en question va abandonner la banane et monter dans un arbre, et du coup il pourra récupérer la banane. Bon. Donc, dès qu'il y a communication, la question de la justesse se pose.
Une deuxième phrase. J'ai une toute autre idée de la parole dans la vie. La parole engendre. Elle ne fait qu'orner ou accompagner l'existence.
Je peux lire parce que là, je ne comprends pas, en fait. J'ai une toute autre idée de la parole dans la vie. La parole engendre. Elle ne fait pas corner ou accompagner l'existence. J'ai l'impression que tu n'as pas dit pas.
C'est possible.
Elle ne fait pas corner. Ben, j'espère bien qu'elle ne fait pas corner ou accompagner l'existence. La parole crée le monde, c'est clair. C'est la parole qui crée toutes les fictions sur lesquelles nos sociétés reposent. Les nations, l'Europe, les religions, toutes les histoires... qu'un groupe décide d'adopter comme histoire commune pour vivre ensemble. Donc c'est la parole qui crée tout ce qui vient en plus de la nature. Ça n'est pas un ornement.
Silence. Troisième chapitre. Chut.
Bah, le silence dans l'écriture, c'est quelque chose de très intéressant, hein, parce que c'est très vivant. Il y a 1000 silences différents. Et le silence, c'est quelque chose qu'on peut s'imposer à soi-même. Le silence, ça peut être le signe d'une incapacité à s'exprimer. Le silence, ça peut être quelque chose qu'on impose à quelqu'un d'autre. Donc, chut, ça, c'est un silence qu'on impose à quelqu'un d'autre. Et ce silence qu'on impose à quelqu'un d'autre peut avoir plein aussi de couleurs, de sens, dans la contrainte. Et la contrainte La contrainte, ça peut être une source de souffrance, mais ça peut être une source de liberté aussi, en tout cas dans l'écriture.
Mystère.
La vie, c'est le mystère, hein, puisque une vie entière ne suffit pas à percer le mystère complètement. Et le silence, bah, bien sûr, en est un. Oui, c'est du silence dont on parle. Il contient toutes sortes de choses qui ne sont pas exprimées et qui, par le fait qu'elles ne sont pas exprimées, n'existent pas vraiment, qui restent donc mystérieuses, qui restent sujettes à interprétation, sujettes à confusion. Oui, donc mystérieuses.
Un synonyme de silence qui touche le musicien que tu es, que tu fus, intervalle.
Oui, les silences en musique, c'est vraiment quelque chose qui structure autant que les sons, autant que les notes. Ça structure le rythme, ça le syncope. Et ça porte de très jolis noms d'ailleurs. Soupir, demi-soupir, pause, demi-pause. Bon, et les intervalles, oui, l'intervalle, c'est déterminant en musique, de comprendre ce qu'est un intervalle et de savoir s'y retrouver entre les sons et les silences. Et c'est indéniablement, quand on a suivi une formation musicale, ce qui est mon cas, quelque chose qui forme à l'écriture. L'écriture, c'est aussi fait de silence, de son, même silencieux. La parole, c'est du son silencieux à l'intérieur du lecteur. C'est fait d'intervalles, c'est fait de rythme, c'est fait de syncope. La musique, ça s'apprend comme un langage, ça s'apprend comme on apprend une langue. Il y a des règles qui la régissent, comme une grammaire, et c'est assez fastidieux à assimiler comme une grammaire, et quand on le possède ensuite comme un outil, c'est merveilleux parce que ça permet de voyager au sein de cet univers là, de cette langue là, et c'est sans limite.
Un dernier, furtivité, un synonyme de silence.
Furtivité. Pour moi, ça m'évoque juste Alain Damasio, Les Furtifs, que je n'ai pas lu, donc je ne saurais pas parler, mais quelque chose, oui, de la clandestinité, peut-être, je ne sais pas.
Si tant est que la furtivité et le silence ont peut-être quelque chose en commun, c'est de ne pas être visible, ou de ne pas être audible.
Ouais, peut-être.
Deux phrases pour silence. Le silence n'était ni le calme, ni la quiétude, ni la paix.
Bah, le silence, ça peut être le calme, la quiétude et la paix, mais en l'occurrence, là, on n'a pas le contexte, mais ça ne l'était pas. Et c'est vrai que le silence, ça peut être tellement de choses. Ça peut être la guerre, hein. Ça peut être l'instant avant que qu'on crie... feu. Donc c'est chargé de toutes les potentialités, celle-là notamment.
Dans les situations politiques que l'on connaît ou les drames que l'on connaît, est-ce que individuellement, collectivement, politiquement, nous ne sommes pas muets devant certaines situations qui nous paraissent, à titre personnel, des fois intolérables?
Ben, on peut l'être, hein, muet. On peut l'être, mais c'est pas très souhaitable. C'est pas très souhaitable parce que c'est l'effet souhaité. Donc, faut se rebeller. Faut se rebeller contre le mutisme. Le mutisme, en tant que citoyen, c'est un malheur, hein, souvent. C'est le laisser-faire. C'est n'être ni collabo, ni résistant. Être mutique. C'est être entre les deux. Et c'est quand c'est majoritaire, comme ça a pu l'être, le mutisme, ça permet à n'importe quoi de s'installer. Ça permet au pire de s'installer, le mutisme. Donc le mutisme, c'est en politique, c'est malheureusement un état que les dirigeants souvent souhaitent, c'est créer de la sidération. C'est un état contre lequel on a tout intérêt en tant que citoyen de lutter.
Phrase assez longue. Il est des silences verts, comme ceux de la campagne, des bleus, des blancs, comme ceux de la mer, de la montagne. Ce sont des silences habités, des silences pleins. Celui-là est vide, insoutenable.
Celui-là lequel ?
Comment le briser ?
Celui-là lequel ?
L'auteur ne le précise pas.
Ah, d'accord.
La phrase ne permet pas de savoir quel est ce silence qui est insoutenable, ce silence qui est vide. Y a-t-il des silences vides ?
Oui, sûrement.
Sont-ils plus insoutenables que ceux qui sont pleins ?
J'en sais rien.
C'est bien de ne pas avoir des avis sur tout.
J'en sais foutre rien.
Eh bien, je vous invite à terminer cet entretien sur cette parole définitive, qui est aussi, à certains moments, de pouvoir prendre de la distance par rapport à certaines limites que nous pouvons avoir. Eh bien, je vais remercier Denis Lachaud d'avoir répondu à mes questions. Je vais le remercier aussi de sa participation donc à cette conférence et à cette lecture. Et puis, je vous invite aussi à découvrir ses romans, ses textes théâtraux, qui sont tous parus dans une société d'édition qui s'appelle Actes Sud.
Sauf un petit qui est paru aux éditions du Chemin de Fer.
Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes en train d'écouter cet enregistrement quand le loup ne tarde pas à arriver. Et surtout, précipitez-vous sur l'enregistrement de la conférence de Denis Lachaud. À bientôt, merci.
Interview.
Okay. The bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.